Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1199 en ce samedi 17 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues et plus. Dans ce 1199e numéro de Sweet Home Chicago, des sons d'hier et d'aujourd'hui, de Blind Lemon Jefferson à Eric Bibb en passant par Bob Dylan. En première heure, nous écouterons des souvenirs inénarrables de radio avec l'ami Francis Delvaux de la RTBF qui, dans le 30e épisode de My Rockers, ne se contente pas de nous présenter l'un de ses titres fétiches de 1965 signé Bob Dylan. Il nous brosse un portrait complet de ce qu'il était possible de faire en tant que radioman dans les années 70 et suivantes. Un témoignage vibrant, passionné et passionnant. Nous écouterons également deux nouveaux titres du disque du mois Until We Meet Again de Kaz Hawkins et un autre de 30 ans de scène, le nouvel album de Jeff Toto Blues. Voici Kaz Hawkins pour démarrer, extrait de Until We Meet Again. Pray to.
You can pray to the Lord Jesus when you get down on your knees. You can hang fire with the devil, 'cause he got you when you're weak. You can roll on down that river, yeah, and keep the tide down low. But this place where you've been headed, girl, is a sights. You can play poker with your demons and hide it from your eyes. But you know this place you're going, you ain't getting no nice surprise. Come on, pray, pray with me till there's nothing left inside. Come on. With his hypnotizing eyes, he gonna take you for a walk of wilds down the highway of your life. If you don't call the blues man, you're lost with no return. The blues greats won't see your soul, but your prayers will all be heard.
C'est la première plage de cet album Until We Meet Again par Kazo King chez Dixie Frog avec Pray To. Voici une nouveauté qui nous vient d'Auvergne. C'est Jeff Toto Blues. Son album s'appelle 30 ans de scène. Voici Death Valley Blues. The Death Valley Blues par Jeff Toto Blues sur l'album 30 ans de scène. On continue ce 1199e Sweet Home Chicago avec l'ami Francis Delvaux de la RTBF en direct de Namur avec Salut les copains, avec Bob Dylan, avec Bruce Springsteen, avec Muddy Waters. Surtout Bob Dylan, vous allez voir. Ça s'appelle My Rockers et c'est le numéro 30. Je suis au téléphone avec Francis Delvaux. Bonjour Francis.
Bonjour Marc.
Comment vas-tu ?
Mais pas mal, et toi ?
Pas mal. Bah écoute, ça va très bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu, parce qu'on va pas le cacher aux auditeurs. On se connaît bien depuis longtemps, et puis voilà, c'est comme
oui.
Comme des frères outre Quiévrain, on va dire, du côté de Namur, pour toi, en Normandie, ici, à Radio 666, pour moi. Et nous sommes collègues, enfin, tu m'as précédé de quelques années. On va te situer, peut-être, pour les auditeurs, Francis Delvaux, la RTBF.
La RTBF, oui, depuis 71, et puis maintenant, je suis retraité. Voilà, donc j'ai fait un tas d'émissions différentes, allant de ce qu'on appelle la mise en onde de dramatique, autrement dit, du théâtre à la radio, quoi. Ouais. Tu vois, donc j'ai eu l'occasion là de côtoyer les plus grands comédiens belges. C'était une expérience très très riche. J'ai écrit moi-même des nouvelles, j'ai adapté des pièces de théâtre pour la radio. Enfin bref, pendant quelques années, j'ai fait ça avant de passer à la musique. Et il faut dire que moi, je suis né en 1948. Donc, si tu veux, ma préadolescence a été bercée par des émissions comme Salut les copains, hein, qui a débuté en 59 avec Franck Téno et Daniel Flipaki, qui s'est poursuivi jusqu'en 68 et qui passait pratiquement que de la variété française à l'époque. Et tu sais que la variété française à l'époque des yéyés, c'était essentiellement des adaptations de tubes anglais ou américains. C'était, je sais pas moi, à l'époque de Monty, d'Hervé Villard, des débuts de France Gall, de Sylvie Vartan, de Johnny Hallyday, bien sûr, même Aznavour, il passait encore Jacques Brel. Il y a eu la création 2 ans plus tard du magazine Salut les copains, qui a fait la gloire du photographe Jean-Marie Perrier, hein,
qui était
le premier petit ami de Françoise Hardy, d'ailleurs, oui, qu'on entendait aussi souvent dans Salut les copains.
Jacques Dutronc, si alors... tu nous écoutes, salut.
salut Jacques.
T'étais pas le premier.
Il faisait aussi partie de cette bande-là, forcément. Oui. Puis plus tard, bien plus tard, j'ai eu l'occasion... François, je l'ai jamais rencontré, mais Jacques Dutronc, je l'ai interviewé effectivement pour la télé belge. Et puis, il y a eu en télé cette fois, H. Tendre et Tête de Bois. Je sais pas si tu te souviens, non, t'étais trop jeune.
J'y connais quand même parce qu'on a eu la télé en 68. Moi, j'avais 5 ans, hein, on est d'accord. Mais ouais, je me souviens de cette émission. Alors, tu vas nous rappeler le nom de l'animateur.
C'était Albert Reissner.
Ah, Albert Reissner qui jouait de l'harmonica. Et puis, ouais,
qui jouait de l'harmonica, oui, tout à fait.
Il faisait
ouais,
aussi une autre émission qui s'appelait Point Chaud.
Et c'était donc à partir de 61 sur ce qui s'appelait à ce moment-là la RTF. Oui. Avant de devenir l'ORTF, et à ce moment-là, ça passait sur la première chaîne de l'ORTF. Et puis, il y a eu aussi au niveau variété, en télévision, toutes les émissions du couple Carpentier.
D'accord, hein, voilà.
Qui faisait des shows géants, qui mettait des artistes en évidence en mélangeant les genres et en mélangeant les artistes. Ils faisaient des duos improbables entre, je sais pas moi, Sacha Distel et Jacques Dutronc, justement, Guy Marchand, et Carlos, et voilà. Bah, c'est pour te dire que beaucoup de ces gens-là, finalement, j'ai eu l'occasion de les rencontrer ensuite.
Et des interviewés, Francis.
Dans ma vie professionnelle.
Et oui.
Oui, je sais pas, je vais t'en citer quelques-uns comme ça au hasard. C'est pas une liste exhaustive, mais évidemment tous les Belges, Adamo, Morane, Annie Cordy, mais aussi bon, Patrick Juvet, Dick Rivers, Robert Charlebois, Higelin, Little Bob, Jane Manson, Thiessen, Francis Cabrel à ses débuts, William Scheller, Christophe, je me souviens très bien de sa Ferrari rouge, parqué sur le trottoir, en plein virage devant, parce qu'il est arrivé un petit peu juste un samedi matin venant de Paris, l'émission se terminant à midi. Je crois qu'il était parti à 9h30, tu vois, de Paris, pour être là à 11h. Donc il avait parqué sa voiture n'importe comment. Jean-Jacques Goldman à ses débuts, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, que j'ai interviewé 3-4 fois, France Gall, Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg, oui, j'ai eu l'occasion d'interviewer Serge, tout un dimanche soir, oui. Lio, Jane Birkin, Dalida, Bertignac, je sais pas moi. Alors, quelques jazzmen aussi, dont le plus connu, enfin, celui que tout le monde connaît, c'est Toots Thielemans, hein, l'harmoniciste belge,
oui,
entre autres. Et puis, alors, plus tard, je me suis tourné un peu vers le rock, parce que là, ma première émission était consacrée à la variété, puisqu'elle était diffusée sur la chaîne dite populaire, oui, de la RTBF. Et donc là, je dois dire que c'est pas un remords, hein, c'est pas un regret, mais enfin, j'ai participé avec mon collègue de l'époque à ce qu'on a appelé l'explosion de la variété belge. Beaucoup n'ont fait qu'un tube ou deux, mais il en reste encore debout, comme Frédéric François, par exemple, ou Claude Barzotti, hein, qui font essentiellement leur carrière en France, maintenant dans les tournées organisées, essentiellement pour le troisième âge, hein, avec des cars dans lesquels on vend des couvertures chauffantes, des Tupperware, enfin,
oui, quoi. Les stars 80, quoi, les stars 70-80, quoi.
Ouais, c'est ça. Et alors, pour revenir à cette période de Hache Tendre et Tête de Bois, Hache Tendre et Tête de Bois, surtout, il faut rappeler qu'il y a, à partir de 2000, on a repris des tournées avec ces artistes de l'époque, hein, vieillissant bien sûr, mais 2000-2002 et les années suivantes, on a pu retrouver ces gens comme Nicoletta, Sylvie Vartan, etc., dans des tournées en France et même en Belgique. Et puis donc ensuite je me suis tourné un peu vers le rock. On a eu avec mon ami Pierre Guyot la première émission vraiment rock de la radio belge. Ouais. Et là j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, de faire des interviews, par exemple de Christian, des Pretenders, le bassiste des Talking Heads, Ian Dury, Rick Wakeman de Yes, Supertramp en nombre, Steven Stills, Brian Eno par exemple, Chris Rea, Phil Collins, Elvis Costello, et j'en oublie, ce sont des gens qu'on souhaite. On a reçu en studio, soit c'était des interviews par téléphone aussi parfois.
Oui, et puis aussi des interviews que tu as pu faire et réaliser directement chez les gens pour lesquels on t'autorisait des frais de déplacement, même parfois en avion, je crois, Francis.
Oui, c'est ça. Ça a été le cas de Chris Rea. C'était l'époque où les maisons de disques avaient encore de l'argent. Maintenant, ça se réduit à une peau de chagrin, hein, comme tu sais. Chris Rea a frété un avion pour Pierre Guyot et moi, pour aller voir, interviewer Chris Rea dans sa ferme au Pays de Galles, tu vois.
Incroyable, ouais, ça c'est vrai.
Ouais, c'est incroyable. On organisait à ce moment-là des cars pour aller voir des artistes en France, à Lille ou en Hollande. Par exemple, la première fois que j'ai vu Dylan, justement, c'était dans le stade de Rotterdam, devant, je sais pas, des dizaines de milliers de personnes, évidemment. Hein.
C'était à une époque, j'ai l'impression, où l'audio primé sur le visuel. Maintenant, on vit dans une société de visuel, on devient sourd et puis on en veut plein les mirettes. Et à l'époque, on écoutait de la radio, quoi. Enfin, on continue à le faire maintenant, mais je veux dire, on n'est plus. T'as, entre deux, j'ai retrouvé le nom de la bassiste de Talking Heads, c'était Tina Weymouth avec David Byrne.
Voilà. Hein, ouais.
Et donc, voilà, t'as pas l'impression, ça, Francis, on est passé dans une autre partie peut-être de la civilisation où l'audio devient moins important, non? C'est pas ton cas?
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, on n'écoute plus beaucoup. D'ailleurs, les radios sont obligées de se diversifier. Elles ont toutes un site internet maintenant.
Et puis on filme les gens qui parlent à la radio maintenant.
Oui, c'est ça. Oui, il y a des émissions radio qui sont transmises directement en direct en télévision.
Oui.
C'est par exemple chez nous, c'est le petit matin, l'émission matinale de 6h30 à 9h.
Ouais, j'aurais l'impression en tant que, enfin si j'étais dans ces radios-là, j'aurais l'impression qu'on rentre dans ma salle de bain, quoi. Je veux dire, tu peux faire de la radio en pyjama, tu peux plus maintenant, c'est terminé.
Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens, j'ai fait pendant tout un temps, à la fin des années 70, l'émission du matin de 6h30 à 9h.
Ouais.
Bon, je sautais souvent dedans pour mon jeans de la veille et ma chemise de la veille pour aller paraser, à moitié lavé, tu vois, avec les cheveux en bataille, pour aller faire de la radio. On s'en foutait, évidemment. Maintenant, il faut se lever un peu plus tôt pour se préparer, parce qu'on risque d'être filmé. il m'est arrivé, je sais pas, un nombre incalculable de fois de rentrer de Guindaille directement et d'aller à la radio, quoi, tu vois. Bon, bah, ça, c'était une autre époque.
C'est une autre époque. Alors, voilà. Pour compléter un petit peu, mais je sais pas si on sera vraiment complet, parce que tu as fait tellement de choses, Francis. Francis Delvaux, tu as créé aussi, ou co-créé, je ne sais pas, la Radio Classique 21, il y a quoi, il y a début des années 2000?
Classique 21 est né en le 1er avril 2004.
2004, ça fait presque 20 ans, voilà.
Ouais, ça fait presque 20 ans. Et là, j'y ai travaillé d'abord comme bras droit du directeur. Et j'ai fait, tout en faisant aussi des émissions, essentiellement, j'ai fait une émission de country, une émission de blues. Et je faisais j'écrivais des rubriques pour des concours. Je faisais la revue de presse, de la presse spécialisée musicale. Enfin, bon, j'ai beaucoup travaillé là, tout. Et puis, j'ai pris ma pré-retraite parce qu'on poussait un peu les plus âgés vers la sortie. Comme
alors
ça.
Bon.
Donc, j'ai pris ma retraite, pré-retraite en 2010 en négociant le fait, bon, d'accord, je signe ma pré-retraite, mais à condition de pouvoir continuer mon émission de blues jusqu'à l'âge légal de la retraite, qui est chez nous à 65 ans.
D'accord.
Et donc, effectivement, ça s'est passé comme ça. Donc, j'avais une émission hebdomadaire de blues, et une fois par mois ou tous les deux mois, j'avais une émission en live qui s'appelait le Blues Café.
Oui, le Blues Café, qui existe aussi en France, mais ce n'est pas les mêmes animateurs. Par contre, il y en a un qui s'appelle Francis aussi, figure-toi.
Oui, ouais, Francis bien. Fratto, oui, ben tout voilà. À fait, que je connais bien également.
Ouais.
Alors là, si tu veux, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens comme Charlie Faber, Alain Augustiniac, Nina Attal, Thiago Tebel, Fred Chapelier, Neil Black, Doug McLeod, Keith Dunn, Shai Shore, Kirsten Tin, Roland Chakunte, Joe Bonamassa en direct, Susan Tedeschi par téléphone, Sugar Ray Rayford, Paul Persson bien sûr, Candy Kane un peu avant sa mort, Monster Mike Welch, Sue Foley et j'en passe, je suis désolé pour ceux que j'oublie.
Beverly Joe Scott voilà. Peut-être aussi, non?
Oui, Beverly Joe Scott bien sûr, oui, ouais. Tout à fait.
Oui, alors bien sûr, j'imagine qu'il y a une liste pléthorique.
Tous les artistes belges de blues, dont certains sont connus en France quand même, comme, je sais pas moi, Fred Endewiller,
Fred Lanny, Marc Lelang.
Oui, c'est ça, oui, tout ça, bon, voilà, tout.
Guy Verlinde.
Oui, Guy Verlinde, Overlinde, puisqu'il est flamand, Tiny Lextim, beaucoup, il y a beaucoup d'artistes, René Stock, qui est un bassiste extraordinaire, et qui joue, qui accompagne pas mal d'artistes étrangers, quand ils viennent en Belgique, comme Rob Tognoni, par exemple,
oui.
Tu vois, que j'ai reçu également. Voilà. Donc,
Tu n'as pas cité un artiste belge que moi j'aimais beaucoup, je ne sais pas s'il a toujours une actualité, c'est Jean-Pierre Froidebise.
Jean-Pierre Froidebise vit toujours,
oui.
Il est encore en de la musique, mais il est malheureusement très aigri. Si tu suis son compte Facebook, tu verras sa page Facebook, tu verras qu'il est vraiment très, 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 très aigri.
D'accord.
Bon, il s'est beaucoup assagi, il ne fume plus, il ne boit plus, il ne se drogue plus, parce que c'était vraiment...
Ça, c'est une bonne nouvelle, oui.
Quelques années encore, une dizaine d'années d'ici. Mais si, je l'ai reçu plusieurs fois aussi. Jean-Pierre, je dirais pas que c'est un ami, c'est un bon copain, je suis pas toujours d'accord avec sa façon de voir les choses, mais bon, il râle surtout le business, surtout, bon, c'est vrai que c'est difficile. Moi-même, j'ai essayé de placer, après ma retraite, d'essayer de faire tourner quelques artistes, mais ouais, d'accord, on vous dit oui, au chapeau, je veux bien vous prendre au chapeau, mais je dis, écoutez, le jour où je pourrais payer vos peintres au chapeau aussi, je viendrai avec les artistes, et voilà, c'est de plus en plus difficile, les gens sont de plus en plus, enfin, la vie actuelle fait que, voilà, c'est ça.
C'est compliqué, bon, c'est compliqué pour tout le monde, effectivement, maintenant, pour promouvoir la musique, on peut le faire à la radio, parce que ça reste gratuit, maintenant, enfin, quand je dis ça reste gratuit, pas forcément dans les grandes radios que on a côtoyé une, la plus grande, la RTBF, elle vit aussi de recettes publicitaires, c'est bien naturel. Mais placer des groupes, pour devenir tourneur, il faut en vouloir. Et c'est vrai que parfois, ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte.
Oui, exactement.
Ça, les gens ne le savent pas forcément. C'est vrai, c'est bon de le dire, ça. Et c'est bien que ce ne soit pas que moi qui le dise dans mon émission. Je te remercie, Francis. C'est pareil en Belgique, alors.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, t'inquiète pas, c'est pareil. Oui, c'est pareil.
J'espérais mieux, j'espère, parce que je m'étais dit, bon, les Belges, ils adorent, on le dit souvent avec les artistes français ou américains, enfin, j'essaye dans ces interviews-là, parfois, de leur parler un petit peu des pays qui sont autour de chez nous, parce que les actualités hexagonales étant ce qu'elles sont, c'est pas toujours très, très réjouissant. Moi, je sais qu'en Belgique, quand il y a un groupe live, en général, il y a du public autour, non ?
Ouais, il y a du public, surtout en Flandre, oui. Qui est plus anglo-saxon, si tu veux, la Flandre étant proche de l'Angleterre, quelque part, hein, Ostende, Douvres. Les Flamands parlent pratiquement tous anglais, oui. Et parfois même français aussi, puisque, par exemple, une ville comme Gand était essentiellement une ville d'aristocrates francophones, mais tout a changé depuis les années 60 avec la position de la frontière linguistique. C'est ainsi que le collège où j'ai fait mes humanités, comme on dit chez nous, à la fin de... C'est mon frère qui a terminé, qui est 2 ans plus jeune que moi, qui a terminé la dernière section francophone du collège. Il y avait une section flamande, une section néerlandophone, donc une section francophone. Mais en 60, René, la ville, est devenue Rons en flamand, et c'était fini. Il n'y a plus qu'un petit îlot, Moucron, qui est près de la frontière française.
Oui, d'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle Moucron, et elle est coupée en deux, finalement, parce qu'il y a une partie française et une partie belge.
Oui, c'est ça, oui. Et bien, donc là, c'est une enclave francophone encore dans la Flandre, si tu veux.
Et c'est là où habite notre ami Cisco Herzhaft. Et il a bien raison.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on fait de la très bonne bière aussi. Il n'y a pas qu'à Namur où on est à côté de Floref où il y a la très bonne bière. Il y en a aussi à Moucron, je peux témoigner. Voilà. Et donc, tout ça, bah, effectivement, toutes ces considérations, ça nous amène à penser, à dire que toi, tu as eu une veine extraordinaire de connaître tous ces gens-là. Est-ce que tu as interviewé Bob Dylan ? C'est arrivé, ça, ou pas ?
Non, malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de l'interviewer. Mais... Je dis donc, la première fois que je l'ai vu, c'était dans les années 70 au stade de Rotterdam. Oui. Il y avait Eric Clapton en première partie qui s'est amené en charentaise. ça m'avait marqué. Clapton qui jouait son blues et son rock en charentaise.
Il se croyait à la radio peut-être, je ne sais pas.
Il se croyait à la radio, oui. Et puis ensuite, il y avait Dylan. Bon, Dylan, je l'ai vu 5 ou 6 fois.
Ah oui.
Mais la première fois, même si c'était de loin... on était quand même dans des loges, mais enfin bon, un stade de foot, hein, c'est pas t'es pas très rapproché de l'artiste.
Ouais.
Là au moins il était face au public, je veux dire.
Oui, pas comme certaines fois où il était impossible de voir son visage, on avait juste la nuque de Bob Dylan et on devinait le milieu, on devinait la moitié de sa guitare. J'en ai parlé avec un autre amateur de Bob Dylan, avec Bobby Dierlinger. Il m'a dit non, c'est pas vrai, moi je suis un très grand amateur de Bob Dylan, et bon non, il a jamais fait ça. Voilà, bon, bah, peut-être qu'il ne l'a pas vu.
Ah si, moi je l'ai vu à Forêt Nationale, hein, qui est à Bruxelles, la plus grande salle pour accueillir les grands groupes, les grands artistes. Si, je l'ai vu carrément de profil devant son clavier. Pas une seule fois, il a tourné la tête vers le public. Et il s'est jamais adressé au public directement. Hein. Il a enfilé ses morceaux, et il est sorti de scène sans rappel, sans rien du tout.
Francis, comment est-ce que tu expliques ce... Francis Delvaux, comment est-ce que tu expliques cette attitude ? Est-ce que c'est du mépris ? Est-ce que c'est de l'indifférence ? Est-ce que c'est de la provocation ? Comment est-ce que tu expliques ça ?
Je sais pas, c'est pas... Je pense pas que ce soit de la provocation, c'est un peu... C'est partie du personnage. Bon, il a refusé d'aller chercher son prix Nobel. Hein, il faut quand même rappeler qu'il a eu le Nobel de littérature en 2016.
Oui.
Hein, bah, il n'est pas allé le chercher. Donc, je sais pas, c'est un mec qui vit sur une autre planète. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. C'est marrant d'ailleurs, parce que le jour où nous faisons cet enregistrement, eh bien c'est le lendemain de son anniversaire.
Ouais.
C'était son anniversaire hier. Oui, c'est un mec assez difficile à cerner. Hein. Quand il a fait sa tournée anglaise après avoir enregistré Like a Rolling Stone et qui a commencé à le jouer en live. En Angleterre, il y a, je ne sais pas dans quel pub ça s'est passé, mais il y a entre deux morceaux, il y a un mec dans la salle qui a crié « Judas !» Et bon, il a répondu « Je ne te crois pas, t'es un menteur !» Et il s'est retourné vers son groupe. Le groupe qui l'accompagnait alors, ben, il y avait Robbie Robertson, entre autres, et Leron Helm, qui allait devenir The Band ensuite, hein, mais qui s'appelait pas à ce moment-là encore The Band. Et il s'est retourné vers l'orchestre, et il leur a dit « Hey, like Rolling Stone, à fond la caisse, les mecs hein. !» Et voilà, bon, donc là, c'était un peu provocateur, mais je crois qu'il en avait marre aussi d'avoir eu des tant de reproches au festival de Newport en 65.
Oui, parce que qu'il en avait marre des étiquettes, tout simplement, et puis que jouer en électrique, c'était quelque chose qu'il avait envie de faire, et qu'on acceptait pour d'autres, et lui, non, il fallait qu'il se cantonne dans le rôle du Pete Seeger numéro 2, c'est un peu ça, non?
Oui, c'est ça, oui. Alors qu'à Newport, il y avait déjà quand même des artistes de blues comme Muddy Waters, qui était électrique, qui s'était déjà produit. Mais pour Bob Dylan, les puristes ne le voyaient qu'avec seul, avec sa guitare sèche. Et ils n'ont pas accepté donc le fait qu'il s'amène avec une guitare électrifiée et un groupe. Il y avait Pete Seeger qui s'occupait de lui à ce moment-là, qui a foutu un peu le bordel parce que le son était merdique, il a menacé les musiciens de couper les câbles, enfin ça a été... Bon, et la voix de Dylan était, paraît-il, surpassée par le bruit de l'orchestre, ça s'est passé mal à tous les niveaux. Tant scénique que dans la foule, quoi.
Oui, donc,
hein, c'était les gens qui venaient, les spectateurs des festivals de Newport, c'était essentiellement des blancs, des puristes, hein, qui aimaient la musique des Appalaches, un peu de country, du folk pur et dur, et considéraient le rock et la pop comme
des dégénérés, peut-être, non?
Des dégénérés, des machines à fric, et voilà. Donc.
Ouais. Alors, j'ai envie de te poser une question, un petit peu l'avocat du diable, du coup, Francis, par rapport au choix artistique de Bob Dylan, qui ont été divers, oui, et variés. Bon, on va pas rappeler forcément la période mystique, fin des années 70, début des années 80, mais bon, imagine que Bob Dylan, là, il a 81 ans maintenant, 82 maintenant, il sort un album de rap. Comment tu réagis, Francis?
Écoute, j'aime pas. J'aime pas. Ça veut dire que j'aime pas tout Bob Dylan, j'aime des chansons de Bob Dylan, j'aime pas l'ensemble, mais certainement pas les trois albums mystiques là de 79 à 82, certainement pas ceux-là, mais donc je n'aime pas tout, je préfère choisir, faire mon marché dans ces disques, dans ces différentes chansons. Comme tu m'avais demandé le but de la séquence, si je comprends bien, c'était de faire savoir les premières émotions musicales, quelque part, qu'on a ressenti. Donc là, c'était en 65. Pour moi, j'avais 16 ans encore quand c'est sorti. Sorti le 15 juillet, je pense, Like a Rolling Stone, c'est en juillet, en tout cas, 65. 65, c'était quand même les Stones qui étaient numéro 1 avec Satisfaction. C'était les Beatles avec Rubber Soul et Help. C'était les Who, My Generation. Et puis, pour moi, j'ai pris donc, c'était évidemment la musique que j'aimais. Et puis, il y a eu pour moi ce que j'appelle cet ovni que j'ai découvert un jour dans son entièreté, parce que j'avais la chance d'avoir un copain qui travaillait chez, dont le père travaillait chez Capitol EMI, et qui avait enregistré le morceau dans son entièreté, qui avait pu avoir le morceau dans son entièreté. Faut dire que le morceau faisait 6 minutes 9, quelque chose comme ça, et que par exemple aux États-Unis, les 45 tours à l'époque, ils faisaient 3 minutes, 3 minutes 30 maximum. Mmh. Donc pour imprimer le titre en entier, on l'a fait sur deux faces. Et le disque jockey, qui voulait passer l'entièreté du morceau, eh bien, à la fin de la face A, il devait s'arrêter, faire un break, dire quelques mots, retourner le 45 tours sur sa platine pour entendre la suite. C'est assez marrant. Moi, j'ai entendu donc en entier sur première fois sur bande magnétique, et puis quand l'album est sorti, forcément. Mais bon, moi, j'ai été frappé d'abord musicalement et puis par les paroles. Donc, il y avait Pike Bloomfield à la guitare électrique, forcément. Alors, Gamond, il y avait Al Cooper. Alors, c'est marrant, parce que Al Cooper, au départ, c'est un guitariste. Et pour la session d'enregistrement de Like a Rolling Stone, Dylan lui dit, non, non, toi, tu vas pas jouer de la guitare, tu vas te mettre à l'orgue.
Ah oui, d'accord.
Il avait jamais touché un orgue de sa vie, Al Cooper. Donc ils ont répété toute une nuit et le lendemain ils ont enregistré la chanson.
Il a appris sur le tas et après c'était dans la boîte, c'est incroyable ça.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait incroyable. Ouais. Voilà. Alors bon, c'est vrai que c'est une grande chanson. Par exemple, le magazine Rolling Stone, c'est une des plus grandes chansons de tous les temps. C'est vrai, c'est une chanson qui a permis l'éclosion de ce qu'on a appelé le folk rock. Hein, et qui a été suivi par des gens comme Simon Garfunkel, Springsteen avait 15 ans quand il entend pour la première fois ce titre-là, mm-hmm. et il a été complètement inspiré, entre autres, par Bob Dylan et par cette chanson-là. Springsteen, je me fais une petite parenthèse, je suis heureux de le voir pour la deuxième fois le 18 juin prochain à Watford.
Ah oui,
Je sais que tu l'as vu,
l'avoir vu il n'y a pas longtemps, c'était sur Paris, c'était juste extraordinaire, un plaisir à renouveler de toute façon, hein, forcément, et puis là, toi aussi, tu vas te régaler, c'est obligé.
Ah oui, tout à fait, hein, c'est 3 heures de show incroyable.
Qu'est-ce que ça fait d'être seul au monde, sans foyer ou revenir, comme un parfait inconnu, comme une pierre qui roule? C'est un peu la question que pose Bob Dylan à ses fans à l'époque en 65. Si on lui posait la question à lui aujourd'hui, que crois-tu que Bob Dylan répondrait, Francis?
Je pense qu'il est toujours quelque part le troubadour, le bourlingueur qui a passé par différentes époques, puisque Rolling Stone, ça veut dire aussi bourlingueur.
Oui.
Rolling Stone, ça aussi... en fait, ça vient d'un titre de Muddy Waters,
de Muddy
Waters, tu sais.
Muddy Boy.
Roddy Waters dit que la musique est née en même temps que le monde, et que la Terre, c'est quand la Terre s'est formée, les pierres se sont entrechoquées.
Oui.
Et que c'était donc le premier son, les premiers sons de la Terre, c'était les pierres qui s'entrechoquent, qui roulaient, et donc c'était les débuts de la musique pour lui. Voilà, c'est assez amusant.
Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive.
Et puis, comme explication, et puis Rolling Stone aussi, ça a une... On parle de ces pierres que les esclaves mettaient en bouche pour ne pas hurler quand par exemple, on leur attribuait 50 coups de fouet, quoi. Et voilà, donc ça a plusieurs significations. Mmh. Quant à la chanson elle-même, bon, c'est une chanson sarcastique. D'ailleurs, le ton de Dylan est sarcastique déjà dans la chanson. Bon, il se moque quelque part de la société riche contre les pauvres, hein, l'histoire d'une jeune fille qui en perdant son amant, son ami, son amant diplomate, avec son chat sur l'épaule, hein, comme on dit dans la chanson, qui abandonne la fille, et donc la fille se retrouve à la rue. Et qu'est-ce que ça fait?
Oh, des exils. C'est ça. Hein. Parce que un petit peu plus haut, il fut un temps où tu t'habillais si bien, tu jetais une piécette au clochard du temps de ta splendeur, n'est-ce pas? Maintenant, tu parles moins fort, tu as l'air moins fier d'avoir à commander ton prochain repas. Ah, c'est ça, sarcastique, hein, effectivement.
Oui, tout à fait. Hein. Et bon, d'ailleurs, il dit, bon, c'est le clochard à qui tu donnais une piécette en passant, ben maintenant, tu peux lui parler, quoi. T'es dans le même cas que lui, hein, ça, tu peux partager son repas, ouais, grosso modo. Donc, c'est comme toujours, comme souvent, en tout cas, chez Dylan, c'est à la fois politique, sociale, oui, c'est dans la lignée de la contre-culture, hein, qui a commencé en 62 à Greenwich Village. Ce qui est bizarre aussi, c'est que les puristes folk n'ont pas apprécié que Dylan électrifie sa guitare en 65, alors qu'il l'avait déjà fait, puisqu'il avait déjà en 62 sorti un album avec une face électrique et une face acoustique.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without?
Like a Rolling Stone, donc présenté par Francis Delvaux, donc de la RTBF. Ça, c'est un morceau effectivement phare, non seulement pour toi et pour tes propres souvenirs, hein, parce que le but de My Rocker, c'est écouter tous ceux qui évoquent leurs souvenirs d'initiation à la musique par le rock. C'est sûrement un petit peu aussi vous-même. Je pense que du côté auditeur, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, mais également pour toute une génération. On est au début de cette fameuse décennie charnière dont je parle souvent dans les émissions. 65-75, c'est là où tout se produit, c'est là où tout se passe, c'est là où tout explose finalement. C'est avant 68, hein, c'est la période d'électrification de Bob Dylan, mais aussi l'avènement du psychédélisme, les groupes qui arrivent comme Pink Floyd, comme Led Zeppelin, etc. Et c'est là qu'on a une décennie totalement explosive de liberté et un espace de créativité absolument inconnu. Enfin, je veux dire, on est à 100 000 km d'Elvis Presley en 56, quoi.
Absolument, absolument, tout à fait. Si tu veux, c'est cette période-là, avec l'avènement de groupes comme Led Zeppelin, justement, qui m'a fait remonter le temps. Je me suis dit, tiens, mais enfin, d'où vient cette musique-là? Ouais. Et j'ai fait marche arrière pour revenir au blues, pour arriver au blues et au jazz. J'ai fait des émissions de jazz aussi. J'étais assez éclectique, finalement, dans toute ma carrière, puisque j'ai même fait, pendant un an, une émission d'opéra, tu vois, moi qui n'y connaissais rien. J'ai repris les pantoufles pas celles de Clapton, mais d'un ami qui, pour raison politique, devait quitter l'antenne. J'ai dit, écoute, si t'es pas élu, je reprends ton émission, et quand si t'es pas élu, bah, tu la reprends quand tu rentres.
Quand tu reviens, Et il a retrouvé, il a retrouvé le couloir balayé, tout ça, tout était bien rangé après, comment ça s'est passé?
Était bien, je me suis fait une discothèque d'opéra, c'est un morceau de discothèque consacré à l'opéra, et bon, finalement, ça m'a bien plu. J'y connaissais pas grand-chose au départ, mais finalement, je me suis bien amusé.
T'avais une leçon d'avance sur les auditeurs, un petit peu comme nous quand on était formés à l'informatique pour travailler devant les enfants juste après. Il y a quand même une autre facette qu'on n'a pas évoquée de ce que tu sais faire et de ce que tu continues à faire peut-être, c'est scénariste de bande dessinée, Francis.
Oui, je vais écrire, j'ai deux albums sont parus dans la fin des années 80 chez Dargaud. C'était une série qui devait comporter une dizaine d'albums qui s'appelle s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Leo Tomasini, ça devient difficile à trouver maintenant, c'est une série policière. Malheureusement, à la charnière des années 80 et 90, Dargo est tombé, l'éditeur est tombé en faillite, et donc on n'a pas été prolongé, ça a été repris par un Suisse qui jugeait la série à la fois trop adulte pour les ados et pas assez adulte pour l'autre public. Et donc j'ai refait d'autres scénarios par la suite, mais je suis tombé sur un éditeur véreux qui a fait faillite d'ailleurs, et donc ils n'ont pas été publiés. Et puis alors la radio m'a tellement absorbé parce que j'ai eu à ce moment-là des postes à responsabilité, oui. Donc j'avais plus beaucoup le temps d'écrire. Et d'ailleurs en 96 à 2002, j'étais interdit de d'antenne parce que j'étais responsable de la première chaîne et la condition c'était que je ne sois plus producteur, producteur ni animateur moi-même, quoi, tu vois.
Donc ce qui explique aussi en partie ton travail en collaboration avec Malika, qu'on n'a même pas cité depuis le début de cette interview, Malika Benbrahim, qui officie avec toi à la RTBF, qui partage ta vie quand même accessoirement.
Qui à ce moment-là a repris en main toutes mes productions et toutes les programmations des émissions. C'était l'époque encore bénie où les animateurs programmaient eux-mêmes leurs émissions. Maintenant, comme dans la plupart des radios, à part les émissions à thème, comme effectivement mon émission blues, là je faisais moi-même ma programmation, mon émission de jazz, moi-même, mais pendant la journée, le fil musical, il est fait par informatique, hein, par l'ordinateur. Et donc, je sais pas, bon, par exemple, sur Classique 21, il y a des tranches de 4 heures d'animation, ou de 3 heures en journée, où l'animateur découvre sa programmation. Il est tout seul maintenant à l'antenne, d'ailleurs, il n'y a plus de technicien. Mais voilà, bon, je pourrais plus faire de la radio comme ça, quoi. Moi, j'aime bien présenter les choses aux gens. Bon, alors, et en plus, ce sont des Classiques 21 est effectivement basé sur toute l'histoire du rock depuis les années 60 jusqu'à période punk, parce que Marc Isaïe n'aimait pas le punk, considérait que c'était pas de la musique, et quelques nouveautés. Mais comment veux-tu? Bon, moi j'ai connu Woodstock, j'ai vu les films.
On va rappeler qu'à l'époque de Woodstock, Francis, tu avais 21 ans, je crois.
Oui, en 69, oui, c'est ça. Oui. Et j'ai connu mes 68 aussi. J'ai même fait une nuit au Cabanon à Paris.
Ah bon.
mais Woodstock, j'ai bien connu. Et comment veux-tu qu'une personne de 30 ans te parle de Woodstock comme un gars qui l'a connu vraiment?
Exactement.
Même s'il se documente, même s'il lit, s'il le regarde, c'est pas possible parce qu'il a pas connu l'esprit de l'époque. C'était quand même un vent de liberté qu'on a ressenti aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, hein. Ouais, les années 70 et début 80 ont été quand même pour nous d'une folle liberté qu'on a plus connue après, hein. Et voilà, bon, l'utopie est retombée, voilà.
Ben oui, mais je peux témoigner que pour être arrivé un petit peu après, moi j'ai mes parents, hein, qui m'avaient initié quand même à certaines choses, mais ceci dit, dans les années 70-80, on avait encore certaines libertés, et puis notamment par exemple celle de faire de la radio. On continue à l'avoir pour les petites radios associatives comme nous, mais on est en 2023 et on a l'impression quand même que le numérique est en train de nous bouffer. Tu parles d'un robot qui fait la radio à la place des gens. Bon, on est sur la suppression du cash au profit de l'argent numérique, etc. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. On est en train de changer d'époque et je pense qu'on ne va pas survivre au logiciel, nous autres.
Non, bien sûr, oui. Bon, et attends, avec l'intelligence artificielle, on se passera peut-être définitivement de nous un jour, hein. Enfin, les animateurs radio aussi. Oui, je sais pas où on va, mais on y va gaiement. Oui. Tout le monde a l'air de s'en foutre, mais même le créateur de l'intelligence artificielle dit je me retire, il a démissionné.
Exactement. J'ai vu ça.
Et il dit ouf, c'est un truc ultra dangereux. Tout le monde s'en fout, apparemment.
Je suis pas sûr que tout le monde, mais après, oui, si on peut supprimer les gens, pourquoi pas supprimer d'abord les politiciens? Vous êtes bien passé de gouvernement pendant plus d'un an, et si vous en portiez pas plus mal, voilà, c'est une suggestion comme ça. Je sors du cadre, bien sûr, mais c'est pas grave.
Et curieusement, par rapport aux politiciens, je pense à ce qui se passe en France pour l'instant avec la réforme des retraites. Les politiciens, ils vont au-delà de 70 ans, ils sont toujours là à faire de la politique, eux.
Oui.
Ils sont pas obligés d'arrêter Hein, finalement, quel âge? C'est 60...
Bah, maintenant, on est arrivé à 64, à partir 64, du 1er septembre. Ça. Bon, mais par contre, effectivement, si tu veux travailler au-delà de 64 ans, faire comme certains politiciens à 80 ans et quelques, il faut prendre de la cocaïne comme eux, quoi. Sinon, c'est pas possible.
Ouais, vous les en faites. Ouais, ouais, ouais.
C'est ça le secret, hein, tu crois pas? Bon, eh ben,
bah, oui, la cocaïne, bah, écoute.
Comme des amis qui se quittent, moi, je te remercie encore, Francis, pour tout ça. Et je regrette qu'une chose, c'est qu'on habite si loin l'un de l'autre, quoi.
Voilà. Oui, malheureusement, oui.
Je t'embrasse, bon. Francis. Je te remercie pour tout ça. Puis t'embrasse bien Malika aussi.
Tu fais la bise à Dan aussi.
Ouais.
Oh, chouette.
Voilà.
Bien. Allez, bon Francis. Après-midi.
Ouais,
bon travail.
Aussi. Merci.
Et à bientôt, j'espère.
À bientôt. Ouais, salut. Merci. Bise.
Salut, bise.
À bientôt.
Time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your direction home, a complete unknown, like a rolling stone? Ah, you never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal? How does it feel? How does it feel to have you on your own, with no direction home? Oh.
steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose.
C'était le 30e épisode de My Rockers avec Francis Delvaux. On a eu quelques petits extraits musicaux. Bob Dylan, Hurricane, le générique de Salut les copains. Bruce Springsteen avec Born in USA, Manish Boy de Muddy Waters. Et bien sûr, Like a Rolling Stone, extrait de l'album Highway 61 Revisited chez Columbia en 1965. Voici le dernier titre de cette première heure, The River That Sings, c'est Kaz Hawkins.
I've been walking 5 years, walking 5 years to get to the river that sings. I've got burns on my feet from walking in this heat to get to the river that sings. Oh, the river that sings. Oh, Lord, help me make it to the river that sings. I've been walking 5 years, all alone in my bare feet, to get to the river that sings. I've been walking so long down this road that keeps me strong to get to the river that sings. Oh, oh, the river that sings. Oh, Lord, help me make it to the river that sings.
Kaz Hawkins, The River That Sings, extrait de Until We Meet Again. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième heure de ce 1199e Sweet Home Chicago avec notre invité John Tavius Willis.